propos d'usine, c'est des paroles de comédiens, de danseurs, metteurs en scène, chanteurs et autres tisseurs de récits. Des histoires pour prolonger l'histoire d'un spectacle, un temps suspendu entre deux battements de temps, pour partager des passions. Propos d'usine, c'est des enregistrements réalisés dans le cadre du théâtre de l'usine à Saint-Céré. Et pour retrouver Propos d'usine, écoutez les rencontres impromptues et mots partagés, une série d'émissions culturelles proposées par Michel Brissot, diffusée le samedi à midi par Antenne Doc.
Cet enregistrement n'a pu être réalisé que par téléphone. La qualité du son peut parfois présenter quelques altérations. Je m'étonne de trop. De faire un peu un tour d'horizon de qui vous êtes, bien connu, mais c'est toujours bon de rappeler voilà l'esprit qui préside un travail que l'on va découvrir, en l'occurrence « Que ma joie demeure » qui va être donné les samedis 14 et dimanche 15 à Saint-Céré, enfin pas à Saint-Céré directement, mais dans un lieu qui a été fixé maintenant et qui se trouve dans la périphérie de Saint-Céré. Alors vous, en 2008, vous faites des études de lettres, ça paraît dans l'ordre des choses. En 2011, Studio Théâtre d'Asnières. C'est fou le nombre de comédiens, comédiennes que j'ai croisés qui ont fait le Studio Théâtre d'Asnières. En 2012, vous créez le collectif 49701 avec Jade Herbelot et Romain Bec-de-Lièvre, avec qui vous continuez à travailler. 49701, c'est quoi une plaque minéralogique? C'est un...
Non, pas du tout. 49701, c'était le code d'entrée de notre école. C'était le code qui permettait d'accéder à la salle de travail.
D'accord, c'est parfait. Et puis, cette période, vous montez ce projet... De sortir du théâtre et d'occuper l'espace public avec ce projet des Trois Mousquetaires, la série qui se déroule dans le temps et dans des espaces qui peuvent être différents. Puis vous avez travaillé au théâtre.
Et toujours hors les murs des théâtres, dehors, et en effet dans toutes sortes de lieux, aussi bien des cours d'immeubles, des parkings, des friches, des places.
Le lieu en tant que tel avait une importance ?
Non, le lieu, c'était toujours là où c'était possible de jouer. Enfin, on n'a pas toujours choisi avec les Trois Mousquetaires les lieux où on allait jouer. C'était des propositions des structures qui nous accueillaient, dans l'espace public des villes qui nous accueillaient. Et évidemment, après, on fait des choix. Tel espace, tel cours de musée ou tel cours d'école va être plus propice au jeu pour nous, donc on va choisir celle-là plutôt qu'une autre. Ça, c'est toujours aussi un peu en fonction de la structure qui nous accueille.
Mais ça modifiait, on va pas trop s'étendre parce que notre temps est court, mais ça modifiait votre approche théâtrale, le fait d'avoir des lieux différents, inconnus, pas forcément immédiatement adaptés.
En fait, l'approche théâtrale qui a été la nôtre pendant toutes ces années de création de cette série, puisque donc c'est une série de spectacles, il y en a 6, les Trois Mousquetaires, la série, qui donc couvre l'entièreté du roman d'Alexandre Dumas. Ces 6 spectacles ont été créés dehors et à chaque fois en s'adaptant aux lieux dans lesquels on était, selon une approche que nous, on a fini par baptiser contextuelle. On disait qu'on faisait du théâtre contextuel, c'est-à-dire qui jouait, qui dialoguait avec des contextes urbains à chaque fois différents. Donc la démarche était partout la même, que le lieu soit patrimonial ou beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne, qu'il soit plutôt revalorisé ou au contraire que ça soit un lieu plutôt délaissé des pouvoirs publics. Enfin, on a joué aussi beaucoup dans des cités HLM, etc. Quel que soit l'endroit, nous, la démarche est toujours la même. Elle est de, quelque part, rendre vivant, le plus vivant possible cet endroit et le faire jouer le plus possible avec nous, de lui faire sortir par tous les pores de sa peau une sorte d'énergie joueuse qui va se marier à la nôtre. Et donc, on utilise tout ce qui est possible, toutes les portes, toutes les fenêtres, les terrasses, les escaliers, les toits. Enfin, on entre par un endroit, on sort par un autre. L'idée étant de faire de cet endroit... un endroit réanimé par le jeu, quoi, revitalisé par le jeu,
ouais.
et qui rentre en contact avec notre histoire, qui se frotte à notre histoire, même si justement le roman date du 19e, la langue date du 19e, il raconte une histoire qui se passe au 17e et on est dans des lieux qui viennent parler du 21e siècle. Ouais. Donc ça crée une superposition de temporalité qui fait en fait tout le sel de l'adaptation, parce que tout réside aussi dans ces espèces de sauts dans le temps, d'anachronisme et de frottement.
On va avancer un peu parce que si on veut tenir dans le délai qu'on s'est fixé, indépendamment et qui marque l'esprit de votre travail actuel avec ce dont on va parler avec Ma joie demeure, vous avez ensuite travaillé avec le Théâtre du Point du Jour à Lyon, au Palais de Tokyo. Parallèlement à tout ça, vous poursuivez une thèse de doctorat d'études théâtrales à l'université Rennes 2. Donc vous êtes à la fois comédienne, un être charné les deux mots, et aussi une intellectuelle.
Oui, on peut dire
ça.
On peut dire ça. En fait, mes études, le fait de rentrer à Normal Sup en 2008 m'a aussi, d'une certaine manière, lié les mains, enfin, mais de façon tout à fait joyeuse. Mais donc, je devais des années à l'État, des années de travail, de recherche, et que, en fait, j'ai accompli en faisant ce travail de thèse, c'est-à-dire ce travail, en effet, de recherche dans le théâtre contemporain. Et parallèlement à ça, j'étais en train de faire mes armes avec les mousquetaires et de peu à peu m'engager dans une voie artisanale et pratique, en fait. Donc il y a toujours, pendant des années, il y a eu les deux ensemble, et d'ailleurs les deux se répondant toujours, ces deux pratiques se répondant l'une et l'autre, puisque ma thèse portait sur la question de l'épique et de qu'est-ce qui est du renouvellement de l'épopée dans le théâtre contemporain, et de l'autre côté les mousquetaires étaient une certaine manière de répondre à la question, puisque ça a été une épopée, une aventure de 6 ans de création avec un collectif de plus de 10 personnes, une écriture collective. Donc c'était une façon aussi de s'engager dans la chose que j'étais en train de chercher par ailleurs.
Donc ce temps passé, 2020, Que ma joie demeure de Jean Giono avec Romain Bec de Lièvre, c'est un nouveau chantier théâtral que vous avez appelé Manger le soleil. C'est très dévorant comme approche, mais ça marque peut-être le fait que vous avez quitté la cité pour vous rapprocher de l'espace dit naturel, au moins tout du moins un espace rural, campagnard ou autre. C'est un choix qui a été fait ou pas ?
Ah bah oui, bien sûr, c'est un choix. C'est-à-dire que depuis des années, avec les mousquetaires, on travaillait dans l'espace urbain et avec l'espace urbain, et on travaillait dehors, ce qui était déjà un choix assez fort par rapport à ce qui se fait dans le théâtre aujourd'hui. On n'était pas reconnus spécialement comme faisant un travail de rue, mais pourtant, on travaillait dehors, au grand air. Et en fait, les années passant, moi, j'étais aussi très inspirée par des questions plus contemporaines et de relations au monde vivant. C'est aussi beaucoup le philosophe Baptiste Morisot qui m'a conduit un peu sur ces questions. Et à la fin, du coup, des Trois Mousquetaires, ça c'est la fin de l'écriture et de la création. Sachant que, bien sûr, la série de spectacles tourne toujours, mais la fin de la création, c'était 2018. Et du coup, entre 2019 et 2020, j'ai un peu cherché les auteurs qui allaient me permettre de faire ce bond, d'une certaine manière, ce saut hors de la ville, mais hors aussi de prendre l'espace autrement que comme un décor, que comme un simple décor. L'espace, c'est que je voulais tout d'un coup que cet espace puisse être le sujet principal même, devienne le sujet auquel on allait s'attaquer, et pas seulement la toile de fond, quoi. Même si déjà avec les mousquetaires il y avait cette chose dont je vous parlais, où on cherchait à réanimer les lieux, à leur redonner du souffle, là avant de trouver Giono, ce que je cherchais précisément, c'était aussi un auteur qui pouvait mettre au centre les questions de nos relations au monde vivant et de faire du milieu naturel. Moi je parle plutôt de milieu que des espace. Je trouve que ça raconte un peu mieux qui on est au sein de ces lieux-là, comment on en fait partie et comment on est relationné à eux. Comment les milieux pouvaient devenir autre chose que nos décors, mais pouvaient devenir des acteurs au sens plein de l'équation théâtrale. J'ai trouvé Giono sur la route à force de.
C'est une belle rencontre quand même.
Ça a été une très belle rencontre et j'ai lu plusieurs de ses livres avant de retrouver Que ma joie demeure, que j'avais dû commencer quelques années plus tôt, mais que j'avais lâché à l'époque. l'époque, parce que c'est un roman pas si simple au premier abord. Mais tout d'un coup, avec cet œil-là, avec ce désir qui était le mien de mettre au cœur de l'action théâtrale nos relations vivantes, que Ma joie demeure s'est vraiment imposée, puisque c'est un roman qui parle vraiment précisément de ça. Fait revenir la question du monde sauvage et des vivants au milieu de la vie d'une communauté paysanne et qui va complètement métamorphoser la vie de tout le monde. Voilà. Donc c'est arrivé comme ça et avec c'était en effet très choisi.
Donc en fait, vous avez morcelé le texte de Giono que vous conservez pour la part que vous utilisez telle qu'il l'avait produit ou vous l'avez réaménagé?
Oh bah, une adaptation, elle réaménage toujours, comme vous dites. C'est drôle, cette métaphore des meubles. On déplace un peu les meubles du roman, en effet, mais c'est vrai que par rapport à des vrais moments qu'on avait réécrits, par exemple, quand on adaptait Alexandre Dumas, où on pouvait se permettre beaucoup de sorties de route, beaucoup de mélanges d'écriture. Il y avait tantôt du Dumas, tantôt des choses qui étaient inspirées de séries contemporaines, tantôt c'était vraiment notre écriture, ça venait des acteurs, etc. On pouvait constamment sauter un peu de genre et de niveau de langue. Avec Giono, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une langue beaucoup plus poétique et donc très ciselée, très travaillée, très forte, très charnelle. Et les sauts de niveau de langue auraient été pas permis vraiment. Enfin, ça, on s'en est rendu compte très vite qu'on n'allait pas pouvoir réécrire Giono. Mais par contre, on allait pouvoir, ce qu'on pouvait se permettre de faire et ce qu'il fallait faire pour une adaptation théâtrale, c'est beaucoup couper, monter. Donc ça a été tout un travail d'isoler des séquences du roman qui allaient pouvoir donner pour nous ce qu'on a appelé ensuite des tableaux, c'est-à-dire des séquences dramatiques assez denses qui correspondent pour nous à des temps de performance dans un paysage à chaque fois. Et on change de paysage puisqu'on marche, on change de paysage à chaque tableau. Et donc l'adaptation elle est construite en 10 tableaux qui sont autant de haltes au fil d'une randonnée. C'est-à-dire qu'on va partir marcher tous ensemble dans la nature et au cours de cette marche, on s'arrêtera 10 fois. Et ça sera le temps de 10 tableaux qui durent tous entre 20 et 25 minutes, qui racontent à eux 10 le roman et ce qui arrive à tous ces personnages qui habitent au début dans Plateau Grémone, ces Alpes de Haute-Provence, et un jour un étranger arrive, il s'appelle Bobby, et il va changer la vie de tout le village. Quoi.
Alors, sur la base de ce que vous venez de raconter de cette adaptation de Giono dans une mise en forme, dans une traduction qui implique à la fois les acteurs dans le même déplacement que le public qui va suivre, chacun étant non plus séparé, je voulais poser les questions sur le quatrième mur, mais compte tenu du temps qu'on a court, on va sauter, mais c'est aussi important de voir que là, le quatrième mur a disparu, en fait.
Oui, tout à fait. En réalité, en fait, on s'embarque avec les spectateurs dans une aventure commune, collective, et on va tous partager la même lumière, la même chaleur, la même humidité, s'il pleut, la même atmosphère et les mêmes paysages. Il y a une sorte d'unité qui se fait entre le paysage, les acteurs et les spectateurs. Tout le monde devient le paysage, d'une certaine manière. Et ça, c'est lié au fait qu'on marche tous ensemble et qu'on traverse tous ensemble les mêmes milieux naturels et qu'on ne fait qu'un au bout d'un moment avec eux. Donc, en effet, il n'est plus du tout question de quatrième mur, mais je vous dirais, il n'y a même pas les trois premiers murs. Donc, il n'y a aucun mur puisqu'on est dans le milieu, quoi. Et toutes les scènes prennent place et se prennent place dans le paysage et entretiennent une relation singulière avec le paysage et qui n'est jamais exactement la même. Et donc voilà, oui, non, il n'y a plus ni de premier mur, ni de deuxième, ni de troisième, ni a fortiori de quatrième. On est tous ensemble faisant partie de la même expérience et vivant la même expérience.
Mais pour vous, à la fois les Trois Mousquetaires, mais aussi maintenant que Ma joie demeure, c'est une manière de traduire ce que vous pensez que doit être le théâtre aujourd'hui, ou bien ce sont des excroissances particulières, mais le théâtre reste un lieu de confinement où, dans lequel on se retrouve et où il peut se passer quelque chose ou rien.
Je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut faire ce que je fais. Il y a mille façons de faire du théâtre et mille manières de d'utiliser la boîte noire, mille manières même de faire du théâtre dehors. C'en est une parmi d'autres et qu'on a inventé au fil des années avec un certain groupe d'acteurs, mais aussi avec certaines écritures, avec Dumas, avec Giono. C'est ces expériences qui nous ont conduit à fabriquer ce qui s'est fabriqué au fil des années. Mais ce n'est absolument pas une norme.
Bien sûr. Mais est-ce que c'est une voie qui vous semble durable pour vous?
Oui, c'est une voie que moi je trouve passionnante parce que c'est ça. En tout cas pour moi, ça nous remet toujours au cœur un peu de la vie, quoi, de l'existence. On est obligé pour faire théâtre d'entrer en relation avec les propriétaires des parcelles sur lesquelles on joue ou dans le cas des mousquetaires, des habitants des immeubles dans lesquels avec lesquels on joue. On est toujours obligé d'être en relation avec l'autre du théâtre, avec le vrai monde, avec la vraie vie, avec les gens qui habitent là. Donc c'est une manière à chaque fois de se tisser à des lieux qui fait qu'on n'est pas entre nous, enfin qui permet de briser cette espèce d'entre-soi qui guette un peu toujours les artistes et qui moi en effet me peut me faire peur avec la boîte noire, c'est-à-dire c'est tout d'un coup on revient, on est entre nous et on va inviter les spectateurs à venir voir ce qu'on a fabriqué entre nous. Il y a quelque chose de comme ça qui est fermé, qui peut me faire un petit peu peur, mais c'est tout à fait personnel. C'est vrai que moi j'aime bien travailler au grand air, j'aime bien travailler au contact de forces qui me dépassent aussi, et dans des lieux qui me dépassent, dans des choses que je ne choisis pas de bout en bout. C'est-à-dire que les lieux, les milieux dans lesquels on se trouve et dans lesquels on raconte nos histoires, ils sont plus grands que nous. Et ils sont plus vieux que nous, et ils sont là avant nous, et ils nous et personne d'ailleurs ne, on va là où personne ne nous attend. Enfin, personne n'a besoin qu'une histoire se raconte ici. Donc à chaque fois aussi, il y a une manière de venir en timidement, en demandant de l'aide aux uns aux autres, et en faisant aussi que cette aventure de raconter cette histoire là à tel endroit, elle va engager tout d'un coup les imaginaires de ceux qui viennent nous aider, qui viennent nous prêter tel lieu, qui viennent nous permettre de travailler là et qui vont du coup devenir aussi des spectateurs mais très actifs puisque c'est eux qui permettent aussi le spectacle alors qu'ils seraient peut-être jamais venus si on avait travaillé dans la boîte noire. Donc pour moi c'est un moyen de que le théâtre devienne un lieu de rencontre.
Et c'est peut-être aussi cette manière de rompre ce qui est de plus en plus vrai dans notre monde actuel, c'est-à-dire que cet acte presque cathartique qu'est le théâtre, c'est-à-dire ce temps de rencontre où les choses se passe, où chacun va faire sortir de chez lui des éléments qui vont se regrouper à un moment donné, faire que le théâtre ne soit pas un spectacle consommatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète mon billet, je vais au théâtre, je regarde, c'est bien, c'est intéressant, je rentre chez moi et c'est terminé en fait. Il y a quelque chose qui est un acte parmi les actes de consommation.
Absolument, et ça c'est ce qui nous guette et c'est terrible. Enfin moi c'est aussi contre ça, j'essaye de lutter très fort contre ça. C'est compliqué parce qu'on vit dans un monde en effet où à chaque instant on consomme quelque chose, où l'acte consommatoire comme vous dites il est devenu hyper naturel et il fait en sorte que même quand on assiste à une œuvre, ça devient un produit qu'on consomme. Et donc c'est vrai qu'il y a là le fait de s'embarquer dans une aventure un peu au long terme, de faire en sorte que cette aventure elle soit physique aussi puisque les gens marchent avec nous, etc.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je veux dire qu'il y a un partage de la fatigue, de la chaleur ou du froid, enfin peu importe, entre les comédiens, comédiennes et le public qui vient vous voir finalement, c'est vous accompagner en fait.
Exactement. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose de cet ordre-là que je cherche. Parce que tout d'un coup, le public vient nous accompagner, vient accompagner l'expérience, vient participer à cette expérience. Et ne vient pas juste assister à quelque chose qu'on lui donne, qu'on fabrique face à lui, et puis avec lequel au meilleur des cas, ça lui laisse une image, quoi. C'est une image qui va lui rester. On essaye de faire en sorte que ce soit aussi des sensations qui restent, des souvenirs qui s'inscrivent dans le corps aussi. Donc c'est tout à fait différent.
Oui, je pense que aussi ça, c'est-à-dire qu'on appartient à la même chose, au même état du monde, à un moment donné, alors qu'aujourd'hui, on est très fractionné dans nos rapports au monde, et il y a là peut-être ce temps de la nature qui n'a pas été formaté pour répondre à un besoin particulier, qui n'a pas été décoré pour pouvoir répondre aux différents tableaux. Elle est ce qu'elle est. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont vivre une expérience, c'est-à-dire quelque chose qui est une manière de prendre un risque qui n'est pas dramatique, mais malgré tout, le risque de découvrir, le risque d'être bousculé, le risque d'être troublé, ensemble, comédiens, comédiennes et public. C'est peut-être une manière aussi de répondre autrement à la forme marchande du monde actuel qui nous fractionne en éléments de marketing.
Oui, bah absolument. Vous le dites très bien.
Alors, est-ce que Ma joie demeure, vous l'avez déjà donné ?
Bien sûr, le spectacle, il tourne depuis 2022.
Depuis 2022. Donc là, ça fait déjà presque 3 ans qu'il tourne alors.
Il tourne et il a notamment été au Festival d'Avignon, dans le IN d'Avignon en 2023.
Et alors, comment est-ce que le retour que vous avez eu en dehors de l'idée que vous aviez des choses telles qu'elles devaient se passer, quel retour avez-vous eu sur toutes les expériences que vous avez pu faire dans des lieux qui sont forcément très différents les uns des autres ?
Bah, vous savez, les retours, enfin, c'est compliqué parce que...
Non, mais les retours, je ne parle pas en nombre de... Voilà, c'est comment les gens ont fonctionné, comment ils se sont trouvés, comment ils ont réagi, comment ils ont participé, comment ils ont été inclus dans votre projet.
Bah, facilement. Ça se passe. Ça se fait de façon assez facile. Et puis les gens sont prévenus. Ils savent qu'ils vont marcher. Le théâtre leur indique de prendre des bonnes chaussures, etc. Ils savent que ça va durer 6 heures, 7 heures. Donc ils sont au courant. Et en général, ceux pour qui l'aventure paraît beaucoup trop extravagante ne viennent pas. Donc ça,
c'est vrai que ça peut paraître extravagant quand même, hein, d'embarquer les gens pendant 7 heures à marcher.
C'est assez extravagant, mais du coup, ceux qui ont choisi d'être là, en général, ils sont plutôt très heureux d'avoir été là. Et puis, c'est des jauges théâtrales qui sont relativement petites aussi. En fait, le spectacle se fait à 120, 130 personnes. Donc c'est la plupart du temps c'est complet parce que c'est pas des grosses jauges, mais il y a un sentiment de on n'est pas si nombreux, c'est qu'il y a quelque chose qu'on est en train de vivre ensemble. Le public peut se connaître presque, ils se connaissent tous à la fin de la journée.
Ça aussi, c'est aussi très différent dans le dispositif, puisque au théâtre je ne vois que le crâne arrière de mon voisin, de ma voisine.
Tout à fait.
Ouais. Là en fait je suis en côte à côte. Pas disposé selon un ordre préétabli. Le temps passe, Clara. Le temps passe et comme je sais que vous n'avez pas trop de temps, on a évoqué. Je rappelle que Ma joie demeure, ce sera le samedi 14 et le dimanche 15 à partir de 10h dans un lieu que le scénographe théâtre de l'usine précise ou précisera à chacune des personnes qui se sont inscrites. Alors, on va juste en quelques mots évoquer, si vous en avez déjà des éléments, votre futur théâtral. Est-ce que c'est la continuité de Ma joie demeure ou est-ce que vous avez déjà quelques éléments de recherche autres ?
Oui, si vous voulez, un projet est en cours de création qui est dans la continuité totale en termes de thématiques et de questionnements et d'enjeux, puisque c'est justement le philosophe qui avait inspiré le choix de Que ma joie demeure, Baptiste Morisot, devient l'auteur sur lequel je travaille actuellement. Donc on est en train, avec Romain, avec une autre équipe d'acteurs et d'actrices, de travailler à une adaptation théâtrale d'un de ses livres qui s'appelle Manière d'être vivant. D'accord. Donc le titre raconte déjà beaucoup des enjeux qu'on traverse. Le sous-titre du livre d'ailleurs c'est Enquête sur la vie à travers nous. Donc ça prend la forme d'une enquête et ce projet, bah justement, c'est un peu un défi pour moi parce que il m'a été commandé d'abord pour la salle et donc défi auquel j'ai acquiescé parce que il faut bien essayer aussi. Mais il y aura également une version dehors, parce que je ne veux pas lâcher mon parce qu'il me plaît le plus et puisque ce qui m'intéresse d'explorer encore et encore aujourd'hui. Mais ça sera une exploration, même dehors, ça sera une exploration différente parce que ça sera une exploration nocturne. Ça se passera la nuit. Alors, ah ouais. On ne se déplacera pas forcément sur des kilomètres comme dans Que ma joie demeure. Ça ne sera pas une randonnée théâtrale. Ça n'aura lieu que dans un seul lieu, une clairière en forêt ou une sorte de champ abandonné. C'est dans un lieu plutôt moins activé aussi, qui peut évoquer un peu plus.
Donc en fait, ce serait comme une sorte de ZAD théâtrale, quoi.
Pourquoi une ZAD ?
Bah parce que vous savez qu'on a les ZAD, les zones d'occupation par des gens, oui, qui d'un seul coup vont occuper un territoire parce qu'ils ont besoin de vivre quelque chose autrement que ce que propose la société.
Oui, sauf que là, la ZAD, elle va durer 2h30.
Oui.
C'est une zone d'occupation assez ponctuelle.
C'était analogique. C'était juste une analogie, oui.
Mais pour autant, voilà, je travaille aussi à une adaptation en salle. Donc, je dois aussi me poser plein de questions sur le retour à la boîte noire. Et ce que je vous racontais tout à l'heure reste vrai. C'est assez difficile pour moi, en vérité. C'est assez difficile, mais c'est très intéressant d'essayer.
Le temps, voilà, s'est déroulé au-delà de ce que nous avions fixé. Je n'ai pas envie de m'arrêter d'échanger avec vous, mais je sais que vous avez aussi besoin de tout votre temps. Je vous remercie de ce temps que vous m'avez accordé. Et puis, j'aurai le plaisir de retrouver Que ma joie demeure, les comédiens et peut-être vous-même, lors de ce prochain moment de rencontre et de vie en commun dont le théâtre sert de base.
Mais merci beaucoup, merci à vous.
Merci Clara Edouin et puis à très vite. Au revoir.
À très vite, au revoir.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah.